Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour, André Jonin à l'appareil. Nous accueillons aujourd'hui Anne Rostin qui va se présenter plus complètement et qui va nous parler d'une expérience extrêmement originale et prometteuse, une expérience de plan carbone territorial. À vous, Anne.
Bonjour, Anne Rostin. Moi, je dirige la coopérative Carbone de La Rochelle, qui est une jeune coopérative de 2 mois pour mettre en place notre projet local de neutralité carbone et donc de compensation locale.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les principes et puis aussi les modalités principales de ce projet?
Oui, le principe du projet est de pouvoir avoir un outil collaboratif à l'échelle d'un territoire qui permette d'accompagner finalement toute la chaîne autour du carbone, c'est-à-dire l'évaluation des projets, la réduction des émissions et la compensation en local, c'est-à-dire de la contribution de la réduction d'émissions sur des projets locaux. Donc de pouvoir faire un cercle vertueux de la finance climat à une échelle complètement territoriale.
Alors, il est intéressant d'avoir des expériences de plan carbone territorial, d'autant qu'on sait, avec une étude allemande réalisée en 2016 notamment, celle de l'OCO Institut, un institut allemand sur l'environnement qui avait étudié 5600 projets de compensation carbone, donc à l'échelle plutôt internationale à l'époque. Sur ces 5600, 85% qui avaient une faible probabilité d'assurer les réductions d'émissions proposées, et seuls 2% des projets satisfaisaient les critères de qualité. Donc là, on voit bien que l'absence de territoire dans le traitement de cette question de compensation carbone conduit à des réalisations qui sont extrêmement discutables.
Oui, tout à fait. En fait, la question de la compensation carbone, qui finalement consiste à financer un projet de séquestration ou de réduction d'émissions par rapport aux émissions que l'on émet encore, donc ça implique déjà d'avoir fait une action d'évaluation et de réduction d'émissions pour sa propre organisation. Mais ça pose aussi la question de la responsabilité territoriale. Si on va compenser nos émissions résiduelles sur un autre territoire ou sur un autre pays que le nôtre, finalement, à qui revient les réductions d'émissions qui sont générées? Celui qui paye ou celui qui fait? Et donc, dans une approche locale, finalement, on est tous en convergence sur un même objectif de réduction d'émissions à une approche territoriale.
Oui, et aussi en responsabilité, puisqu'en fait, on voit ce qui se passe, et puis on est engagé soi-même avec d'autres acteurs avec qui on est en communication directe, visible. Donc l'évaluation et la réalité des comportements sont beaucoup plus tangibles.
Exactement, on est en rapport direct avec les projets qui sont réalisés. Au-delà des projets qu'on fait dans sa propre organisation, on voit là où on agit, c'est-à-dire que si on veut séquestrer à moins de 30 km de chez soi les émissions qu'on émet encore, finalement on a la concrétisation et on sait qui c'est, on sait quel est le projet. Donc il y a vraiment une transparence complète sur cette chaîne-là. Il n'y a pas finalement, il n'y a que des acteurs locaux. Et puis au-delà de ça, ça permet aussi d'accompagner cette prise de sensibilité aussi. On réduit d'abord et on agit sur notre propre territoire parce qu'on est responsable tous ensemble.
Alors, on comprend bien votre démarche territoriale, mais cependant, on pourrait se dire que la démarche carbone, elle est déjà présente dans les plans climat-énergie territoriaux. Qu'est-ce que vous apportez de plus, finalement?
Alors en fait, de manière générale, aujourd'hui, on a des obligations de moyens, de mettre en place des plans d'action, de mettre en place des évaluations, de faire son bilan carbone à une échelle territoriale. Mais on n'a pas vraiment d'obligation de résultat. Et là, nous non plus, on se pose pas avec une obligation de résultat. On pose un objectif sur une échelle territoriale, mais maintenant, il faut se donner les moyens d'agir. Donc, au-delà des actions qui sont réalisées par la collectivité ou par les grandes entreprises, il faut être en mesure d'accompagner tous les petits projets, d'une plantation de haies agricoles, d'une petite forêt qui peut se construire, à une action de réduction d'émissions liée à de la mobilité. Donc il y a vraiment cette mise en synergie de l'ensemble des acteurs qu'on doit faire. On est, nous, sur un engagement collectif avec toutes les thématiques à mener. Donc évidemment, aujourd'hui, ce sont des choses qui n'existent pas.
D'accord. Pour être précis, ce que vous apportez, vous, comme innovation, c'est le fait d'avoir une compensation qui s'adresse à l'ensemble des acteurs et qui a un objectif de neutralité à un horizon assez proche, c'est ça?
Oui, alors un horizon assez proche, on est quand même sur une échelle à horizon 2040, puisqu'en fait, on ne voit pas de crédibilité à réussir à être plus court que ça, néanmoins avec des objectifs assez drastiques à une échelle 2030. Et on a besoin que tout le monde participe. En fait, quand on a fait notre analyse liée au bilan carbone territorial, on a besoin de réussir à agréger beaucoup de petits projets, beaucoup de participation pour que cette ambition ait une quelconque crédibilité. Et donc, on a besoin à la fois de savoir évaluer l'ensemble de ces projets, de savoir comment on va les financer, donc le système de la compensation locale est un des dispositifs financiers, et puis de savoir comment on agrège l'ensemble de ces petits projets.
D'accord. Donc ça suppose effectivement une capacité de mobilisation à l'échelle territoriale. Comment vous obtenez cette mobilisation de l'ensemble des acteurs ?
Justement par la coopérative, qui est un outil par principe coopératif, puisqu'on est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'on réunit les parties prenantes du territoire, collectivités, entreprises, banques, particuliers, associations, tout le monde vient co-entreprendre sur l'objectif de réduction d'émissions au sein de cet outil commun, en fait. Et donc, finalement, l'identification des projets, l'accompagnement au plan d'action de réduction d'émissions, tous les sociétaires viennent prendre ce qui les intéresse pour pouvoir avancer et puis prescrire sur les projets qui les intéressent.
Cet objectif, il suffit pas de le décréter. Il faut aussi trouver les moyens d'associer les habitants et les autres acteurs.
Oui, et qui peut aussi parfois mettre un peu de temps à se construire aussi. Aujourd'hui, donc on a concrétisé notre projet qui était en format incubation au préalable. Donc cette coopérative est créée depuis 2 mois et elle réunit un certain nombre de fondateurs qui permettent de démarrer cette dynamique-là avec on va dire des grands acteurs et des associations du territoire. Et donc là, on a démarré, on a mis en œuvre en fait la première partie du plan d'action d'accompagnement aux évaluations, réduction d'émissions, des premières compensations carbone locales. Et aujourd'hui, on intègre aussi les premiers particuliers qui souhaitent s'investir bénévolement sur des actions du territoire.
D'accord. Donc l'ensemble des démarches, l'évaluation, le diagnostic, la compensation, enfin toutes les dimensions sont traitées finalement de front.
Exactement. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre de manière opérationnelle, même si on démarre. Donc, on est vraiment sur les premières actions aujourd'hui. Et donc, on est sur... on prouve que le concept fonctionne, on prouve qu'il a un intérêt et qu'il a cette dynamique d'entraînement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples d'exercices de diminution peut-être des rejets, puis évidemment de compensation?
Oui, alors par exemple, on a accompagné une entreprise dans le domaine agroalimentaire à réaliser son bilan carbone, à construire son plan d'action de réduction d'émissions, qui intègre notamment des actions liées à la mobilité, au changement de véhicules, à des investissements énergétiques. Et aujourd'hui, cette entreprise souhaite aller plus loin, elle pose son cap de stratégie carbone et intègre la notion de compensation locale sur ce qu'elle ne va pas réussir à réduire. Donc aujourd'hui, on est en train de l'accompagner à mettre en place cette partie de neutralité carbone. Je vais donner un autre exemple sur un engagement aussi collectif du World Cyber Cleanup Day, cet événement qui consiste à vraiment nettoyer ses boîtes mail, à faire des économies, en tout cas de kilo-octets, donc qui a un impact en termes de consommation énergétique. On fait aujourd'hui de la double compensation sur cet événement local, c'est-à-dire qu'on va planter autant d'arbres que ce qu'on a réussi à réduire d'un point de vue impact carbone. Donc ça permet davantage sensibiliser à ce poids carbone du volet numérique, et de pouvoir montrer qu'en fait, en agissant, on peut aller beaucoup plus loin tous ensemble.
D'accord. Donc, l'entreprise évoquée dans le premier exemple, elle est accompagnée pour établir le diagnostic et pour trouver les solutions?
Oui, tout à fait. Oui, c'est notre rôle.
D'accord. Et vous vous appuyez sur quelles ressources pour cela?
Alors, on a une petite équipe, on est une toute petite équipe interne, donc on est 3 personnes, ingénieurs, dédié en fait à ce volet évaluation carbone, et ensuite on va chercher sur des thématiques spécifiques des experts ou en local, en tout cas via l'écosystème local ou ailleurs en fonction du niveau, on va dire, de spécificité technique dont on a besoin.
D'accord. Et alors l'entreprise par exemple ou la collectivité ou l'habitant choisit lui-même ou elle-même les compensations?
Oui, tout à fait. Ils choisissent le secteur qui les intéresse. Est-ce qu'ils veulent agir sur de la plantation de haies, sur des questions liées à notre environnement dans le volet des marées, ou sur des actions de mobilité ou de réhabilitation exemplaire des bâtiments. Ils choisissent même particulièrement le projet, sa localisation. En fait, ils ont une cartographie sur laquelle ils vont dire, bah voilà, moi je suis située là, ce qui m'intéresse c'est de la plantation de haies, et je veux regarder autour de moi, à 40 km, s'il y a ces projets-là, et je vais compenser ces projets-là. Ils ont aussi la possibilité de ne pas les choisir, mais on leur propose en tout cas de vraiment sélectionner ce qui les intéresse et là où ils veulent être actifs.
Et l'évaluation des projets de compensation, elle s'effectue comment ? Est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu, si vous êtes en proximité, qui se fait de manière un petit peu non organisée, ou est-ce que vous avez un processus précis pour évaluer ces compensations ?
Alors, on a un processus précis, c'est ce qui peut rendre aussi un peu compliqué la démarche quand on est tout seul, pour le mener, et d'où l'intérêt de le faire en collectif, parce que effectivement, on se base sur des méthodes qui doivent être reconnues. Pour aller sur de la compensation locale qui peut avoir une reconnaissance nationale, il existe un label, le label bas carbone. Pour que ces projets puissent être labellisés, il faut avoir écrit des méthodes qui sont elles-mêmes reconnues par l'État. Donc, on a un process qui finalement est à suivre pour pouvoir faire reconnaître les évaluations carbone que l'on réalise.
Ok. Alors, comment se finance cette expérience ?
Alors déjà, pour se mettre en place, on a été largement aidé par l'ensemble des partenaires du territoire et par le plan d'investissement d'avenir qui a été un appel d'offres territoire d'innovation qui a été finalisé en 2019. Donc on a eu pas mal de soutien avec un soutien de la région et de l'ADEME sur notre programme général de neutralité carbone. Et aujourd'hui, l'objectif est de pouvoir avoir une activité qui est viable économiquement liée à cette mutualisation de services, parce que on est finalement plus efficace en mutualisant tout ça, avec un modèle de revenu qui est basé sur deux niveaux, de la prestation de services sur de l'évaluation, sur de l'ingénierie, des bilans carbone, et puis une commission de frais de dossier sur finalement les financements qui sont obtenus pour les projets, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas, mais on prend une commission pour finalement payer le travail qu'on a fait en reversant aux différents projets sur ces compensations. Donc tout ça, c'est transparent pour celui qui paye et pour celui qui reçoit.
Et donc la structure qui porte une expérience, c'est une SIC, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
En deux mots, une SIC, rappelez-nous ce que c'est.
Alors une SIC, c'est donc une société coopérative d'intérêt collectif. Elle réunit, en fait, c'est une société, hein, on a différents formats, nous on a pris un format de société par action simplifiée. L'avantage, c'est qu'au sein de ces structures juridiques, on peut réunir des collectivités territoriales, on peut réunir des acteurs publics, privés, puis les bénéficiaires aussi de ces actions-là. Donc, c'est quand même finalement vraiment à l'image du projet-là. Jusqu'aux particuliers, effectivement. Donc, les particuliers peuvent être partie prenante. L'inconvénient de ces structures-là, c'est que ça pose énormément de questions de gouvernance. Donc, il faut prendre le temps en amont. On a mis pas mal de temps de discussion entre les différents acteurs pour trouver une gouvernance qui soit pas trop lourde, pas trop inertique dans le mode de fonctionnement, mais qui réunisse vraiment l'ensemble des intérêts convergents en fait de tous ces acteurs-là. Donc, ça nécessite en tout cas en montage de prendre vraiment ce temps-là pour que on ait un outil qui puisse être opérationnel derrière.
Très bien. Alors, quelle est l'origine ? Qui a eu l'idée ? Est-ce que c'est une personne physique, une personne morale, un élu, vous-même ? Qui est-ce qui a instillé cette idée d'expérience carbone ?
Ben, je ne sais pas si c'est important de savoir qui a eu l'idée. Mais
si,
que...
c'est important, pourquoi pas ?
Bon, en tout cas, c'est venu de moi, du coup. Ça a été, on va dire, très vite. Cette idée-là, elle est venue parce qu'on avait des problématiques. On était dans le cadre de la construction de notre plan d'action de neutralité carbone. Donc, on avait une petite équipe projet avec les gens de l'agglomération, des structures partenaires. Enfin, on avait un certain nombre d'entités qui étaient engagées. Et en fait, il y avait vraiment des besoins qui ont émergé à ce niveau-là. Et donc, du coup, cette idée de coopérative carbone, qu'on appelait agrégateur carbone territorial au début, elle répondait aux besoins émergents, c'est-à-dire comment on évalue les projets, comment on va les financer dans le long terme et comment on fait en sorte que ces petits projets puissent participer. Et donc, c'est arrivé de cette dynamique collective qu'on avait lancée par rapport à l'ambition de territoire.
Mais vous étiez dans quelle était la structure dans laquelle vous étiez au départ et où vous avez eu cette idée ?
Alors, moi, j'étais dans l'association Atlantec. Donc, à la base, je suis fonctionnaire territoriale, donc détachée dans l'association Atlantec au début. où donc on a animé le développement d'un quartier bas carbone avec un projet notamment d'autoconsommation collective d'énergie renouvelable à l'échelle d'un quartier, et où on était vraiment sur un processus d'apprentissage de comment on améliore l'impact carbone à l'échelle d'un quartier. Et donc on est parti de cette expérience quartier en se disant ben on va le faire à l'échelle d'un territoire et donc sur l'ensemble des axes de travail à mener pour réduire et puis pour séquestrer.
Il faut pas exagérer la vertu de discrétion, Anne. Il y a des pionniers dans les projets et c'est bien de signaler à nos amis qui sont sur les territoires qu'ils peuvent avec leur propre engagement, leurs propres initiatives, initier, influencer, etc. Ça n'est pas indifférent, même si le collectif est très important.
Oui, alors avec aussi l'intérêt, quand on est sur une démarche comme ça collective, c'est cette notion d'appropriation. Le fait d'être sur collectivement, tout le monde porte et est responsable de la réussite de ce projet-là, ça, c'est aussi un des facteurs clés de succès. Puisque on ne veut pas avoir des trop grosses équipes, on ne veut pas faire de prospection commerciale. On veut être le relais et donc on fonctionne sur un réseau local de prescription. On doit se connaître les uns les autres. Et d'où cette notion d'appropriation collective qui est quand même très importante pour que ça puisse fonctionner.
Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres expériences analogues en France ou ailleurs ?
Alors, en France, non. On est la première initiative à se lancer. Mais ailleurs, oui, il y a eu des initiatives qui ont été menées. Alors en Europe du Nord, un petit peu en Grande-Bretagne et puis en Amérique du Nord aussi, principalement au Canada. Alors c'est vrai que l'exemple canadien est vraiment intéressant dans le sens où ils ont vraiment cette approche autour des communautés. Et donc ce développement de compensation carbone par des communautés, c'est un concept qu'ils ont déjà mis en place.
Très bien. Et est-ce que vous êtes en réseau dans une organisation ou qu'on peut éventuellement suivre, par exemple, sur Internet pour savoir où en sont toutes ces expériences?
Alors non, il y a aujourd'hui pas de réseau lié aux expériences de compensation locale. Je pense que dans les années à venir, ce sont des choses qui vont pas mal se développer parce que finalement, en tout cas au niveau européen, on est sur des orientations et une programmation qui va vraiment dans ce sens-là. Il y a d'autres, voilà, sur d'autres territoires aujourd'hui des échanges, mais qui sont plutôt en mode bilatéral sur les initiatives de territoire au niveau européen. Je pense que ce sont des choses qui sont encore à construire.
Très bien. Mais vous êtes quand même très relié, j'imagine, à l'ADEME, à TEPOS, enfin, à tous ces réseaux qui permettent.
À l'association Bilan Carbone. Oui, voilà, tous les réseaux. Il y a aussi à noter I4C, qui est l'Institut for Climate Economy, qui est aussi vraiment relais et réseau aussi pour les territoires sur ces questions-là, qui portent notamment des éléments de développement, de méthodes et du label bas carbone au niveau national. Et c'est vraiment un institut qui est très porteur et fédérateur sur ces questions.
Très bien. C'est vraiment formidable que La Rochelle conserve dans ses gènes, on peut dire, quelque chose de pionnier par rapport au développement durable. Et c'est pas le seul territoire, mais enfin, c'est remarquable. Est-ce que vous avez un mot de conclusion à ajouter, Anne, sur un point que nous n'aurions pas évoqué?
Oui, un élément qu'on a développé sur le volet numérique. On se dote d'outils qu'on espère efficaces d'un point de vue numérique pour instruire et gérer l'ensemble de ces dossiers-là. Un développement qu'on a fait en open source sur une plateforme qui est évidemment compensée en carbone. Et en fait, les développements qu'on a fait, qui ont bénéficié d'un appui public, on peut les mettre à disposition des autres territoires parce que ça permet à chaque territoire d'avoir sa propre plateforme locale et puis bah, pour tout le monde de mutualiser, de partager les frais liés au support technique qui peut être dépliqué dans tous les territoires.
Très bien, bah, beaucoup de pragmatisme, de bon sens et puis d'ambition aussi. Bravo Anne. Et puis, on aura plaisir si on continue ce genre d'exercice à revenir dans un an peut-être ou deux, voir où vous en êtes. Bravo et bonne continuation. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.